bonsoir à toutes et à tous, c'est Franck avec vous sur IDFM Radio Anguin. Très heureux de vous retrouver comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h pour l'émission À toi les étoiles, émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique. La marraine d'À toi les étoiles, Daniel Briot, astronome à l'Observatoire de Paris, et le parrain d'À toi les étoiles, Jean-François Pellerin, journaliste scientifique, ainsi que moi-même, Franck, vous souhaitons la bienvenue pour cette 131e émission d'À toi les étoiles, mais aussi la troisième de cette formule de l'été, puisque sachez que chaque été, je vous propose la formule été d'À toi les étoiles, qui consiste à délocaliser l'émission et à travers une balade à travers la France, vous faire découvrir des lieux dédiés à l'astronomie et à l'astronautique. Ainsi, au mois de juillet, souvenez-vous, j'étais en région centre, dans le département de l'Eure-et-Loire, tout près de maintenant, pour vous faire découvrir l'observatoire de Bois-Richeux, qui présente la particularité d'être construit au-dessus d'un ancien château d'eau. Et puis le mois dernier, le mois d'août, eh bien, vous savez, c'était les vacances, donc les personnes qui devaient me recevoir n'étaient pas disponibles, alors je vous ai proposé un voyage à travers les archives. Alors je rassure les auditeurs, je n'ai pas été surpris par l'orage, j'ai eu le temps de me mettre à l'abri d'ici la fin de l'émission, c'est pour ça que j'ai terminé un peu rapidement. Pour ce mois de septembre, eh bien, on va faire un petit jeu. Je ne vais pas vous dire tout de suite exactement où je suis, mais je vais dire bonjour à mon invité, Philippe Morel, bonsoir.
Oui, bonsoir Franck, bonsoir à tous.
Je pense que les auditeurs se disent, Philippe Morel, ah, on est à Juvisy-sur-Orge, en Ile-de-France, dans l'Essonne. Eh bien non, pas du tout.
Non, pas du tout, on est à environ 270 km de Juvisy-sur-Orge.
On va donner quelques indices quand même, hein. On est plus vers le nord que dans le sud. Hein.
On est plus vers le nord, on n'est même pas très loin de la frontière belge qui est à environ 40 km d'ici.
Alors au mois d'octobre, on a eu l'occasion d'en parler dans une précédente émission d'À toi les étoiles, mais qui n'était pas dans la formule de l'été. On a parlé de cette inauguration de l'observatoire Charles Fehrenbach. Et alors on peut le dire maintenant, je suis ici à l'observatoire Charles Fehrenbach. On va le faire découvrir aux auditeurs. Alors est-ce que vous pouvez tout d'abord nous expliquer qui était Charles Fehrenbach ?
Charles Fehrenbach était, on va dire, l'un des trois grands pionniers de l'astrophysique en France. Charles Fehrenbach est né en 1914, donc on a célébré l'an dernier son 100e anniversaire. Et il a débuté l'astronomie au contact de Madame Gabrielle Flammarion en 1931, suite à une conférence qu'elle avait donnée à Strasbourg, puisque Charles Fehrenbach est originaire de Strasbourg. Et suite à cette conférence, Charles Fehrenbach a entrepris des études de physique, puis est entré donc dans la filière de l'astronomie, avec pour mentor quelqu'un de très connu et de très célèbre à l'époque, et toujours très connu actuellement. Son mentor était André Danjon. Et c'est André Danjon qui l'a guidé pendant une bonne partie de sa carrière, jusque donc sa dernière fonction, qui a été la fonction de directeur de l'Observatoire de Haute-Provence. Il a été directeur adjoint avant d'être directeur de l'Observatoire de Haute-Provence, et c'est à lui qu'on doit le développement de cet observatoire de 1942 à 1984.
Je suis en extérieur, on peut entendre d'ailleurs le vent dans le micro devant cet observatoire. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est pour une meilleure qualité d'écoute qu'on rentre un peu à l'intérieur. Voilà, comme ça on va être à l'abri du vent et on va parler un peu plus de cet observatoire Charles Fehrenbach. Voilà, donc on pénètre à l'intérieur dans une grande pièce là.
Oui, dans une grande pièce qui, dans une vie antérieure, a accueilli 13 vaches, puisque le bâtiment, avant d'être un observatoire, était un bâtiment agricole, constitué d'une étable, d'un garage et d'un grenier à foin. Donc c'est un bâtiment agricole à deux étages, c'est ça qui a été particulièrement intéressant, puisque ça double la surface et que ça permet un usage, on va dire, public ou semi-public au rez-de-chaussée et un usage, de, on va dire, privé, de dortoir, d'accueil, des personnes qui viennent observer pour des périodes qui peuvent aller d'une nuit à plusieurs nuits, plusieurs jours. Donc le bâtiment est conçu pour pouvoir recevoir des observateurs et des gens qui aiment ce qui se passe dans le ciel pendant des durées pouvant aller d'une journée à plusieurs journées, une semaine, deux semaines, peu importe.
Parlons un peu de la genèse du projet. Comment est venue cette idée de faire un observatoire et pourquoi ici ?
Construire un observatoire, pour moi, c'était un rêve d'enfant, comme pour beaucoup d'astronomes amateurs, évidemment. Alors maintenant, on peut se demander, est-ce qu'il y a vraiment nécessité de s'installer son propre observatoire ? Alors, on peut, par Internet, piloter des télescopes dans des régions beaucoup plus propices à l'observation a priori, en Atacama ou ailleurs. Reste que le contact visuel avec le ciel reste pour moi primordial. Et pour tout ce qui est de l'enregistrement d'images par des techniques automatisées, eh ben on pourra les faire ici dans l'avenir quand on n'observera pas. Alors pourquoi ici un observatoire à Prich, dans le nord, on dit le nord, c'est les nuages. En fait, nous, on bénit le réchauffement climatique, tant pis pour les écologistes, parce qu'on s'est aperçu depuis environ une vingtaine d'années qu'on a doublé le nombre de nuits d'observation et on est actuellement entre 140 et 160 nuits d'observation possibles. Donc on se dit que si on arrive à accumuler des documents et optimiser ces 160 nuits, on n'en a pas besoin de plus pour trouver notre compte par rapport à notre insatiable désir d'observer. Alors Prich, pourquoi ? Parce que moi j'habite pour l'instant à Cambrai, bientôt à Valenciennes. C'est à 50 km de chacune de ces deux villes. Je ne voulais pas que ce soit trop loin parce que plus c'est loin, moins on y va. Je voulais pas que ce soit trop près parce que plus c'est près, moins on est encouragé à y aller à cause des lumières. Donc il fallait trouver le meilleur rapport qualité-prix, c'est-à-dire qualité de ciel et prix à passer en temps pour s'y rendre. Alors, suite à une prospection que j'avais menée avec des amis dans les années 80, à l'époque où j'étais membre du club d'astronomie de Saint-Saulve, à côté de Valenciennes, on avait écumé toute cette région, qui est la Thiérache, la Vénois, pour essayer de trouver ce meilleur rapport qualité-prix, et on avait trouvé une qualité non seulement de transparence, mais surtout de stabilité d'image particulièrement favorable ici à Prich et sur cette région de l'agglomération, et enfin du village, puisqu'on est en hauteur par rapport au village et on est dans des conditions qui font que la turbulence locale est égale à zéro le plus souvent.
À côté d'un village, mais il y a quand même l'éclairage public, ça vous gêne pas ?
Alors l'éclairage public, ça ne me gêne pas parce que le préalable à l'installation de l'observatoire ici, c'était d'aller voir monsieur le maire, monsieur Jean-Claude Fauvet, qui m'a accueilli chaleureusement et qui m'a autorisé l'extinction des lumières au moment des observations, et ce de manière pérenne. Ce qui veut dire que, comme c'était le seul village qui restait éclairé la nuit, l'observatoire se trouve approximativement au centre d'une zone d'environ 20 km de diamètre, sans lumière la nuit.
Acquisition du terrain, vous trouvez cette vieille étable ?
C'était une étable qui n'avait plus d'étable que le nom, puisqu'en fait c'était quatre murs avec un toit qui prenait bien l'eau, qui était menacé d'effondrement sur une partie des murs, et dans laquelle il a fallu en gros tout faire. Tout faire, c'est-à-dire tout faire pour faire en sorte que ça devienne un lieu le plus convivial possible et le plus accueillant possible pour pouvoir recevoir le public. Et j'ai pas voulu faire un observatoire complètement aseptisé. Et donc il y a ici des éléments de décoration qu'on trouve pas forcément dans tous les observatoires.
Tout à fait, oui, on pourra d'ailleurs les décrire tout à l'heure. Une question que je me pose, c'est pourquoi Charles Fehrenbach et pourquoi pas Pierre Bourges, par exemple ?
Tout simplement parce que Charles Fehrenbach porte une mémoire qui est à peu près aussi longue que celle de Pierre Bourges, c'est pas tout à fait la même. C'est la mémoire d'un pionnier de l'astronomie d'observation et de l'astronomie physique professionnelle. C'est pas du tout qu'on veut mettre une connotation professionnelle à cet observatoire, mais on a quand même trouvé que pour pouvoir relier les deux mondes, à savoir le monde de l'astronomie d'amateur et le monde de l'astronomie professionnelle, il était préférable de rendre hommage à cet astronome qui était par ailleurs fort discret et qui n'a aucun observatoire à son nom, ni aucun club d'astronomie, alors que Pierre Bourges est déjà bien servi de ce côté-là. Cela dit, Pierre Bourges sera omniprésent ici, d'autant plus que l'observatoire sera le siège de l'Astroclub de France, et il y aura de toute façon la plus grosse installation, si on arrive à l'obtenir, qui portera le nom de Pierre Bourges.
Vous avez connu Charles Fehrenbach ?
Tout à fait, je l'ai connu pendant les dernières années de sa vie, et je ne l'ai pas connu longtemps, mais quand même de façon très, très intense, et c'est ça qui a fait que ça a décidé de ma décision de nommer cet observatoire Charles Fehrenbach, d'autant plus que par volonté, il a légué à l'observatoire une bonne partie de sa bibliothèque et la partie la plus intéressante.
Comment vous l'avez connu ?
Ah, je l'ai connu tout simplement lors d'un voyage observation d'aurore boréale en 2004 en Islande. Il y avait un monsieur qui s'appelait Michel Fehrenbach, qui était ingénieur géophysicien, et qui parlait toujours de son père, de son père, de son père. Et à la fin, je lui ai demandé si son père, c'était pas un monsieur qui se prénommait Charles. Il m'a dit « si, si, tout à fait ». Et comme Charles Fehrenbach avait la réputation d'être complètement inaccessible, et qu'on savait déjà à l'époque que c'était une mémoire vivante de l'astronomie française, je lui ai dit « tu sais, il y a beaucoup d'amateurs qui souhaiteraient le rencontrer, ne serait-ce que pour évoquer avec lui ses nombreux souvenirs », parce que Charles Fehrenbach a quand même été aussi l'un des fondateurs de l'ESO, l'European Southern Observatory. Il est le promoteur et le fondateur quasiment de l'Observatoire de la Cilia, du télescope France-Canada à Hawaï. C'est le premier en France qui a vu la nécessité de sortir les observatoires du territoire pour des raisons d'accessibilité à des cieux beaucoup plus performants. Il a été président de la commission d'optique de l'Union astronomique internationale pendant de nombreuses années, et c'est quelqu'un qui était un visionnaire. C'est aussi rendre hommage à un personnage qui a été l'un des pionniers, non seulement de l'astrophysique, mais aussi de l'optique astronomique, à qui on veut rendre hommage en sachant que l'optique astronomique, c'est quelque chose qui nous passionne aussi.
L'occasion de le rencontrer et de travailler ensemble, et lui, de son vivant, il sait qu'il y a eu cet observatoire à son nom ?
Malheureusement non, puisque Charles Fehrenbach est décédé au tout début de l'année 2008 et que l'observatoire a commencé à prendre corps en 2012.
On part de zéro et on réfléchit dans sa tête, je vais mettre ceci là, je vais faire une pièce là.
Alors pas du tout, la première fois que je suis rentré ici, c'était en août 2011. J'ai vu exactement, dès que j'ai jeté un œil ici, ce que ça pourrait devenir. Donc je n'ai pas eu à me poser de questions, c'était clair, net dès le départ.
Et donc ça s'est ensuite concrétisé. Alors tout ça, il faut de l'argent bien sûr, et vous avez trouvé cet argent où ?
Ben, l'argent, je l'ai trouvé, on va dire, au ministère de la Santé. Pourquoi ? Parce que je suis médecin réanimateur et que donc j'ai enchaîné les gardes en nombre suffisant pour pouvoir m'offrir ce petit caprice qui a coûté quand même un petit peu d'argent. Parce que j'ai pas voulu que dans la partie la plus, on va dire, la plus vitale de la structure, il y ait de l'argent public. Alors maintenant, l'argent public va peut-être finir par arriver. Il arrivera de toute façon, parce qu'à l'inauguration... quand j'ai reçu le député, le conseiller général, enfin tout le pouvoir politique loco-régional, tous m'ont demandé si j'avais besoin de rien. Ce à quoi j'aurais répondu que s'ils cherchaient, insistaient vraiment, je finirais par trouver. Et donc ça va se concrétiser dès l'année prochaine par l'installation de l'amphithéâtre d'extérieur, donc qui va être financé a priori en grande partie par la réserve parlementaire du député Christian Bataille.
Oui, amphithéâtre, parce que vous avez un grand terrain derrière en fait.
Oui, parce qu'il a fallu agrandir le territoire, parce que la propriété, dans sa définition première, faisait 450 mètres carrés, dont 85 mètres carrés au sol occupé par le bâtiment. Le bâtiment est en retrait de 22 mètres par rapport à la rue qui passe devant, qui est la rue des Eaux, et ce qui fait qu'il restait pas beaucoup de place derrière. Donc il a fallu étendre le territoire, donc j'ai fait l'acquisition l'an dernier d'une parcelle de 2500 mètres carrés derrière, qui permet maintenant de pouvoir... envisager de placer le gros des installations à environ une centaine de mètres de la rue et donc à une hauteur de 4 mètres en surplomb, ce qui permet donc encore une fois d'améliorer la qualité des observations. C'est du terrain agricole qui a été commué en terrain à bâtir suite à un reclassement par ce qu'on appelle la DDTM, la Direction départementale des territoires et de la mer. Donc j'ai une autorisation pour pouvoir construire des bâtiments agricoles jusqu'à 1100 mètres carrés de surface. Bien sûr, j'irai pas jusque-là.
Alors là, je pense que le décor est planté. Est-ce qu'on peut maintenant avoir une visite guidée de l'endroit ?
Ah ben tout à fait, on peut avoir une visite guidée de l'endroit. Donc on peut commencer par l'endroit que le public découvre le plus souvent, qui est la salle de conférence. Là où précédemment se trouvaient 13 vaches, du témoignage du passage des 13 vaches, on trouve encore quelques anneaux sur les murs, qui sont des murs qui ont été donc rejointoyés et microbillés de façon à faire reparaître la brique, donc avec un mur du 18e, un mur du 19e. La grande surprise, c'est que sur le mur nord, il y avait donc des auges en ciment qu'on a dégagées, et derrière les auges en ciment, qu'est-ce qu'on a trouvé ? Un magnifique mur en pierre bleue, qui lui aussi a été remis en valeur. Mais se posait évidemment le problème du sol, parce que le sol d'une étale, ça penche de tous les côtés. Et après mûre réflexion, pour finir, on a dégagé le sol d'origine pour remplacer tout ça par un dallage d'église du 18e, qui est organisé sur un motif en croix, qui ensuite a permis de donner l'image du logo de l'observatoire.
Magnifique d'ailleurs.
Et ensuite, donc, comme le dallage était du 18e, bah, j'ai essayé de mettre d'autres éléments à peu près de la même époque. J'avais des portes que j'avais récupérées d'une précédente restauration dans un hôtel particulier lillois. Et donc, il y en a deux des sept portes dont je dispose qui ont été remises en place, puisque le garage qui longe le bâtiment a été transformé en garage à télescope pour la partie centrale, en cuisine d'un côté et en salle d'eau de l'autre, de façon à ce qu'on puisse tenir un siège quand même relativement confortablement. Et pour ce qui est du mobilier, bon, j'avais récupéré à la braderie de Lille une chaire d'église de la même époque, fin 18e, et une table de communauté aussi. Donc tout ça, c'est arrivé à l'observatoire. Ce qui ne veut pas dire qu'on en fait, on va dire, un hommage au style 18e, parce que la pièce a été équipée de tout ce qu'il faut pour pouvoir faire de la vidéoprojection et pouvoir faire de la visualisation sur écran LCD. Et puis se trouvent quelques souvenirs, dont en particulier le cadeau de départ en retraite de Charles Fehrenbach, qui est un cadre lumineux magnifique qui représente la coupole du télescope d'1m93 de l'Observatoire de Haute-Provence, donc sous une rotation de ciel sur une pause d'environ 5 heures. Donc tout ceci tiré sur une plaque de verre et rétroéclairé. Donc on s'est arrangé pour pouvoir disposer ce cadre de manière à ce qu'il puisse être mis en valeur du mieux possible.
Je le confirme, on le voit bien. C'est une bonne idée de faire ce système de rétroéclairage.
Alors naturellement, dans cette pièce, il y a aussi le souvenir de l'inauguration, qui est le panneau d'inauguration, qui a été dévoilé par Catherine Césarski le 19 octobre 2014, surmonté d'une petite photo de Charles Fehrenbach en habit d'académicien. C'est la moindre des choses qu'on lui devait en sachant tout ce qu'il a pu apporter par son legs à l'Observatoire en matière de documents et d'ouvrages anciens, voire introuvables.
On est dans cette salle de réception et je vois ensuite qu'il y a un grenier, il y a un étage au-dessus.
Alors oui, il y a un étage au-dessus qui est un étage qui pour l'instant est non cloisonné, qui sert de dortoir. Donc pour l'instant, l'étage de l'Observatoire, on peut y faire ce qu'on va appeler du camping de luxe, puisque l'étage est hors d'eau, hors d'air, on peut le chauffer et il est éclairé, mais l'installation n'est pas encore finie comme elle l'est au rez-de-chaussée, puisqu'au rez-de-chaussée tout est terminé et apte au fonctionnement, à quelques petits détails de finition près, mais qui n'empêchent pas de pouvoir bénéficier des lieux.
Mais il y a une chose que je remarque, c'est que dans ce local, que ce soit au rez-de-chaussée ou à l'étage, il n'y a pas de télescope.
Non, les télescopes sont essentiellement disposés à l'extérieur. Il y a quelques télescopes donc dans la salle de conférence qui peuvent être sortis pour les observations. Et il y a aussi un garage à télescopes sur la partie sud du bâtiment qui permet d'utiliser pour l'instant un Celestron 14 sur une terrasse plein sud de 35 mètres carrés. Mais dans le projet, le gros des installations sera installé au nord donc de la propriété, donc le plus loin possible des axes de circulation. Et là, on prévoit la construction, pour l'instant, de 4 abris qui vont comporter chacun des télescopes d'un diamètre allant de 300 à 535 mm de diamètre, tous équatoriaux. Et dans l'avenir, si on en obtient le financement, une tour d'observation qui, selon le montant du financement qui sera européen, devrait atteindre entre 800 et 1200 mm de diamètre.
Justement, ce garage à télescope, on pourrait peut-être aller le voir de plus près.
Oui, tout à fait.
On va s'interrompre quelques instants, le temps de faire une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission À toi les étoiles. À tout de suite.
IDFM 98 FM, la plus francilienne des radios.
La plus francilienne des radios.
Sur 98 FM.
C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h. Je vous rappelle que c'est la dernière émission de cette formule de l'été, puisque le mois prochain nous serons en automne, donc nous regagnerons les studios. Et je vous rappelle que pour cette dernière émission de l'été, eh bien je suis aujourd'hui dans le Nord-Pas-de-Calais, dans le département du Nord, dans le petit village de Priche, qui se trouve à 40 km à l'est de Cambrai, célèbre pour ses bêtises, et à 5 km au sud de Maroilles, célèbre pour son fromage. Je suis ici à l'Observatoire Charles Fehrenbach, en compagnie de Philippe Morel, membre de la Société Astronomique de France. Et durant cette pause musicale, eh bien, nous sommes sortis, nous avons contourné le bâtiment pour se rendre dans le garage à télescope. Et là, nous sommes face à un télescope que va nous décrire tout de suite Philippe Morel.
Alors voilà, donc pour l'instant, le télescope qui est en place, c'est un Celestron 14 de la bonne époque, puisqu'il date de 1976 et c'est le numéro 256 de la marque. Donc un pur produit fabriqué donc aux États-Unis à l'époque, qui est une bête de course du point de vue résolution, et qui pour l'instant circule donc de ce garage jusqu'à la terrasse, c'est-à-dire d'environ 5 ou 6 mètres. Sur un petit chariot qui a été réalisé par le ferronnier qui a réalisé les portes blindées de l'observatoire, et un chariot qui s'avère parfaitement apte à l'observation, puisqu'en fait, en bloquant simplement les roues, on garde une parfaite stabilité de l'ensemble. Alors ce télescope est là à titre provisoire, puisque le télescope attitré de cet abri sera un télescope Newton de 406 mm de diamètre monté en système Newton Cassegrain avec une ouverture de 4,77 en Newton et 16 en Cassegrain, lequel est sur une monture équatoriale à fourche et toute la mécanique fabrication Trasud.
Il y aura des rails, je vois qu'il y a des rigoles.
Voilà. Les rails sont d'ailleurs au fond de l'abri, ils ne sont pas encore posés, mais ils sont là. Donc c'est sur ces rails que va circuler le télescope sur un chariot qui lui-même est dans l'abri aussi, et avec un système de blocage qui permettra de le bloquer toujours à la même position de façon à ce que la mise en station reste la même d'une rentrée-sortie à une autre.
Donc il n'y aura pas besoin de refaire la remise en station à chaque fois qu'on le sort?
Pas du tout.
On explique pour les auditeurs ce qu'est une mise en station?
Alors la mise en station, c'est une procédure qu'on utilise toujours quand le télescope est monté sur une monture qui suit le mouvement du ciel, donc une monture dite équatoriale. C'est une monture dont l'axe de rotation est parallèle à l'axe de rotation de la Terre, donc il faut orienter précisément l'axe parallèlement à l'axe de la Terre, donc approximativement en direction de l'étoile polaire. Quand je dis approximativement, c'est que l'étoile polaire n'est pas tout à fait au pôle, et que donc en fonction du moment de l'année et de la longitude par rapport du lieu, on est obligé de faire des corrections, mais ça, les viseurs polaires le font très facilement. Donc le but est de pouvoir, une fois que l'axe est parfaitement parallèle, on peut laisser tourner la monture du télescope et pendant une heure, deux heures, et l'objet reste toujours dans le champ.
Monsieur Morel, vous n'êtes pas seul puisqu'il y a le maire de Prix justement qui est avec nous. Monsieur le maire, bonjour.
Bonjour.
On est justement sur cette terrasse publique. Comment vous avez réagi quand Philippe Morel est venu vous expliquer le projet?
Mais on a tout de suite répondu favorablement. Hein, parce que c'était une opportunité aussi pour la commune. Une commune de 1000 habitants, donc on n'avait pas grand-chose, disons, à réputation. Hein. On a vu tout de suite que l'observatoire pouvait nous apporter, outre du public, et aussi une notoriété au niveau de la commune. C'est pour ça que dans mon discours, j'avais dit « si Maroual a son fromage, Priche maintenant dans son observatoire ».
Philippe Morel vous a demandé l'autorisation d'éteindre les lumières. Alors c'est une chose que vous avez acceptée facilement?
Bien sûr, oui. On n'a eu aucun retour négatif des riverains ni rien. Donc je pense que c'est rentré dans les mœurs aujourd'hui. Il n'y a aucun souci et on a répondu favorablement à la demande de M. Morel.
Et en plus, ça fait de l'économie d'énergie.
Si on veut, oui.
Sur ces lieux publics, il va y avoir donc des soirées d'observation d'organisées par Philippe Morel, mais aussi par la commune. Comment ça va se passer?
On s'associe, disons. Mmh. Hein, voilà, oui. Monsieur Morel, quand il a une manifestation, nous demande par exemple du matériel, un coup de main également. Dans la mesure du possible, on répond favorablement. Et c'est aussi pour nous l'occasion d'avoir. Ça fait partie des festivités de la commune.
Vous connaissiez l'astronomie avant que Philippe Morel vienne vous voir?
Je ne m'y intéressais pas. Non, c'était pas... Tout entier, on s'y intéresse un peu plus. Puis on voit que ça même que pas mal de personnes quand même aujourd'hui parlent et viennent également. Hein. Je pense que ça va au fur et à mesure dans le temps. Je pense que de plus en plus de monde viendront, de la commune même, hein, pas que l'extérieur. Hein. Ouais, de plus en plus de monde viendra ici. Ce sera un lieu, je pense, de rencontre au niveau astronomie, hein, qui sera important.
Et vous allez devenir assidu, peut-être?
Peut-être. J'ai un manque de temps en ce moment, disons. Hein. Voilà, c'est ça surtout. Hein. Ouais.
Mais je crois que vous avez des gens, Philippe Morel, qui sont en train de devenir assidus.
Ah oui, j'ai un groupe d'assidus d'environ maintenant 80 personnes qui sont sur la liste de courriels qu'on active quand on fait des observations publiques. Parce qu'en fait, il y a deux types de manifestations ici. On a les manifestations programmées. La prochaine, d'ailleurs, sera à l'occasion de l'éclipse totale de Lune du 28 septembre. Ça va être le 28 septembre au petit matin. Donc là, Monsieur le maire est déjà recruté, et la municipalité, pour l'organisation de quelque chose d'un peu festif le 27 au soir, que ce soit ici à l'observatoire sous forme d'un barbecue astronomique, parce qu'il faut vous dire que à chaque fois, tous les ans, depuis que l'observatoire existe et qu'il est en travaux, la commune s'associe à nous pour organiser un barbecue astronomique, ce qui permet de joindre la gastronomie à l'astronomie. Et donc là, on envisage de le faire sous cette forme-là ou une autre, donc le 27 au soir, après une après-midi de conférence sur les éclipses de lune au foyer rural, et avant l'observation de l'éclipse, donc avec armes et bagages, c'est-à-dire avec les télescopes de l'observatoire, les télescopes que les observateurs voudront bien emmener ici. Et donc, par rapport à ces organisations, c'est annoncé dans la presse, qui répond toujours favorablement. Et ensuite, on a les observations selon la météo. Et donc c'est sur cette liste de maintenant environ 80 personnes, quand on l'active, j'en viens à peu près 20-25 quand on active ça 2-3 heures avant. Donc on a des gens qui sont quand même à l'affût des étoiles, comme disait notre maître regretté Pierre Bourgeois.
Et au niveau du voisinage, je crois que vous avez des assidus aussi.
Oui, j'ai des assidus en particulier chez mes voisins, donc je vais dire les voisins de droite quand on regarde le sud, donc les voisins de l'ouest, qui sont pas du tout à l'ouest d'ailleurs. Et donc ils ont des enfants dont l'un des plus jeunes commence à être bien intoxiqué par l'astronomie.
Hein. Vous y êtes pour quelque chose.
Je pense.
Monsieur Moral, je disais que vous n'étiez pas seul, il y a aussi une autre personne qui est avec vous, qui va se présenter.
Alors Gérard Lemaître, président du club d'astronomie Caudrésien.
Vous participez aussi sur ce lieu, vous avez organisé des choses ensemble d'ailleurs.
Oui, la nuit des étoiles, c'est-à-dire le 8 août de cette année, où il y avait 50 personnes avec une quinzaine de jeunes.
Et puis le 20 mars aussi, il y avait eu un événement, c'est ça?
Alors, le 20 mars, c'était à l'occasion de l'éclipse partielle de soleil. Donc notre club était représenté par les deux vice-présidents et le secrétaire, qui avaient eu la chance d'animer, disons, deux classes, une classe de Priche et une classe d'Avesnes-Aubert.
Vous avez eu du beau temps pour pouvoir observer cette éclipse?
Alors à l'époque, le temps était plutôt mitigé, donc il y a eu des phases où les gens ont pu quand même observer. Les enfants étaient contents de voir quand même une éclipse. Pour certains, c'est peut-être la première fois qu'ils voient une éclipse de soleil.
Pas la dernière, je leur souhaite en tout cas.
Bien entendu, oui.
Monsieur Moral, j'aimerais qu'on parle de l'Astroclub de France.
Oui, l'Astroclub de France, c'est une association qui, dans une première vie, dans une vie antérieure, avait été fondée par Pierre Bourges, donc en 1984. Et c'est une association qui a fonctionné jusqu'en 1994. Elle portait la publication de la revue Astrociel, et donc était une revue des amateurs bricoleurs, observateurs, que beaucoup de personnes actuellement regrettent encore. Bon, refonder l'Astroclub de France, on l'a fait donc en mémoire de Pierre Bourges, évidemment. Alors pour les auditeurs qui ne connaissent pas Pierre Bourges, on va dire que c'est le maître à penser de tous les astronomes amateurs, observateurs, bricoleurs, puisque Pierre Bourges leur a apporté tout ce qui permettait, avec de faibles moyens, de pouvoir accéder à un télescope de 200 mm de diamètre apte à la photographie. On a eu un autre personnage qui nous a marqué, c'est Jean Texereau, qui en 1947 a permis à l'amateur, alors équipé d'une lunette de 50 ou 60 mm de diamètre du commerce, de pouvoir se fabriquer un télescope de 20 cm de diamètre, qui augmentait considérablement les possibilités d'observation. Et Pierre Bourges donc a donné à ce télescope de Jean Texereau la possibilité d'en faire un usage photographique, y compris pour la photographie à l'époque argentique à longue pause. Donc c'est un gros progrès. En plus de cela, Pierre Bourges a fait beaucoup pour la popularisation de l'astronomie. Il est l'auteur d'une quarantaine d'ouvrages permettant de pouvoir faciliter tous les côtés, toutes les facettes de la popularisation de l'astronomie. Donc il a été le dernier très grand nom de l'astronomie populaire en France, après bien sûr Camille Flammarion, Lucien Rudeau, l'abbé Moreux, entre autres. Et donc refonder l'Astroclub de France, on s'est dit que c'était pas mal, parce que Pierre Bourges est décédé le 21 juin 2013. C'était un adorateur du soleil, donc il a eu la bonne idée de disparaître le jour du solstice d'été. Et donc, dès 2014, on a trouvé intéressant de lui rendre hommage sous forme d'une journée nationale qui s'appelle le Festival du Soleil, Journée Pierre Bourges, qui, depuis cette année, se fait sur deux jours, le week-end le plus proche du 21 juin, jour de la disparition de Pierre Bourges. On ne veut pas faire ça en semaine, ou comme la fête de la musique, par exemple, d'abord pour essayer de télescoper le moins possible la fête de la musique, et ensuite parce que la disponibilité des bénévoles est beaucoup plus importante le week-end qu'en semaine. Et donc l'Astroclub de France poursuit ce but-là, c'est-à-dire l'organisation du Festival du Soleil Journée Pierre Bourges. Il poursuit aussi comme but l'organisation d'une rencontre astronomique annuelle dont la première édition a eu lieu du 7 au 23 août cette année. Ça s'appelle les rencontres Alpes-Europe Astronomie. Et ensuite, c'est d'essayer de pouvoir continuer l'œuvre de Pierre Bourges et de mener à bien un projet qu'il a toujours eu et qu'il n'a pas pu mener, à savoir le projet d'un jardin observatoire accessible à tous. Et le jardin observatoire accessible à tous, c'est un petit peu ce qu'on est en train d'essayer de constituer ici à Priche, puisque c'est dans cet esprit-là que le projet a été dessiné.
Vous apportez justement de l'eau à mon moulin, parce que on a fait une présentation un peu du site, et j'aimerais maintenant qu'on parle de l'avenir plus en détail.
Alors l'avenir, donc c'est un avenir, on va dire, matériel pour ce qui est de la poursuite de la mise en place des installations. C'est un avenir aussi par rapport à ce qu'on souhaite développer pour, on va dire, le public, qui soit astronomique ou non astronomique. Parce qu'on est ici dans une région qui est très méconnue par rapport aux grandes régions touristiques de France, et qui est pourtant une région bocagère très intéressante, très riche, aussi bien du point de vue historique que du point de vue architectural. Et l'idée, c'est dans la région, c'est de joindre en gros l'astronomie et le caractère local du paysage et de l'histoire locale. Donc on a plusieurs sentiers de randonnée qui sont en cours de préparation, qui partiront probablement du centre du village de Priche, parce que c'est beaucoup plus facile de les faire partir de là que de l'observatoire. On pense à un sentier du système solaire, ce qui est très classique, 1 mètre, 1 million de kilomètres. On va à 4,5 km. Un autre sentier qui serait un sentier de la mémoire de la Terre, donc 1 mètre, 1 million d'années, et on retourne jusqu'à l'origine du nuage présolaire. Et un autre qui serait le sentier de la mémoire de l'univers, qui serait là aussi 1 mètre, 1 million d'années, ce qui nous permettrait de faire un parcours de 13,7 km qui irait jusqu'au Big Bang. Alors en mettant les différents événements naturellement dans des endroits qui n'ont pas forcément quelque chose à voir avec l'astronomie, mais qui permettraient aux gens, tout en cheminant dans une logique astronomique, de pouvoir découvrir autre chose.
Notamment la ville de Priche.
Notamment le village de Priche et les environs. Ensuite, on a aussi en prévision des soirées astronomico-artistiques. Ça, on est en train de mettre tout ça au point, c'est-à-dire de faire des soirées qui soient à la fois, que ce soit astro-gastronomique, que ce soit astro-musical, que ce soit astro-peinture. On a un conférencier habitué du site qui est François Legendre, qui est spécialiste, qui est historien de l'art et qui nous fait des conférences magnifiques sur les relations entre l'art pictural, l'art sculptural et l'art musical et l'astronomie. Donc, ce sera, je pense, l'un des piliers de cette organisation.
Oui, parce que c'est vrai que c'est intéressant. On peut effectivement mélanger d'autres disciplines avec l'astronomie.
Bah, tout à fait. L'astronomie, c'est une discipline qui est quand même très, très éclectique, puisqu'elle touche, ne serait-ce que dans le domaine scientifique, à des quantités de sciences annexes. Ensuite, si on regarde quelles sont les connotations astronomiques de disciplines telles que l'architecture à l'époque médiévale ou au début de la Renaissance, par exemple, il y a beaucoup, beaucoup de choses à expliquer aux gens par rapport à la signification des formes et des proportions qui ont une connotation tout à fait astronomique par rapport à ce qu'était l'astronomie de l'époque. Et ça, c'est très intéressant à détailler et à découvrir, ne serait-ce que par des balades dans des villes même de province où on retrouve ces connotations sur les façades.
J'aimerais maintenant qu'on parle un peu des différents télescopes que vous avez. On a parlé tout à l'heure de celui qui était dans le garage à télescope, mais vous en avez d'autres aussi qu'on peut aller voir de plus près, par exemple.
Oui, il y en a d'autres. Donc, ce sont des télescopes qui seront, quand ils seront en position dans les abris, ils seront bien sûr accessibles au public aussi lors des grandes manifestations. Ce qui est un peu dommage en France, c'est qu'il n'y ait pas de site comparable au site de Stella Fine aux États-Unis. Où justement c'est un petit peu une initiative comparable, sauf qu'elle a été montée dans les années 1915-1920, où un groupe d'amateurs a récupéré une grande prairie et y a installé plusieurs instruments, plusieurs observatoires, et ce lieu est devenu le lieu d'un rassemblement astronomique annuel qui est l'un des plus importants, voire le plus important des États-Unis maintenant. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre aux personnes de pouvoir accéder à des instruments d'observation d'un diamètre relativement confortable, et de permettre aussi au public d'y accéder de façon à ce qu'on puisse faire ici des grandes fêtes de l'astronomie autrement qu'en randonnant derrière un seul télescope.
On va refaire le tour du bâtiment et on va retourner dans cette salle de réception pour voir de plus près les télescopes qui, comme Philippe Morel nous disait, seront installés dans des abris. Ça, c'est votre dernière acquisition, hein, celui-là.
Ce n'est même pas une acquisition, c'est un télescope qui a été donné à l'observatoire par un astronome amateur qui s'appelle Monsieur René Guichard, qui est un vieux membre de la Société astronomique de France, qui ne peut plus observer, qui voulait faire don de son installation à une structure en mesure de pouvoir en faire profiter le maximum de personnes. Donc c'est un télescope, bon, lui ne sera pas sous abri, c'est un télescope qui va sortir et rentrer, puisqu'il ne fait que 235 de diamètre, c'est déjà pas mal. Donc c'est un Celestron 925 sur une monture équatoriale de dernier cri, avec viseur polaire, pointage automatisé et avec tous les raffinements permettant la photographie astronomique. Donc il a été baptisé pour ce qui est de la photographie astronomique récemment lors des rencontres Alpe-Europe Astronomie, et il a permis par entre autres de faire des images de la comète du moment, à savoir la comète Churyumov-Gerasimenko.
Ensuite nous avons un autre télescope.
Là c'est une pièce de musée. C'est une lunette astronomique qui fait 160 mm de diamètre. Alors vous me direz que c'est très courant comme instrumentation maintenant, mais pas tout à fait, puisque celle-ci fait 2,25 m de focale. Mais c'est 2,25 m qui ont été repliés intelligemment. C'est-à-dire qu'il y a deux miroirs de renvoi qui permettent de faire tenir les 2,25 m dans un tube principal qui fait un petit peu plus d'un mètre de long. Et l'axe de, donc le foyer est renvoyé dans l'axe de rotation à hauteur. C'est une monture azimutale. Et c'est une lunette qui a été construite par Maurice Manant, donc dans les années 1930. Il y en a quatre exemplaires, dont celui-ci est le seul connu. L'optique, c'est une optique qui a été taillée par André Couder. D'ailleurs, l'objectif est signé. C'est un instrument dont on se sert. On peut le sortir, même si c'est compliqué, qui donne une image très très bonne et qui permet d'observer dans des conditions de confort extrême, puisque quelle que soit la hauteur, l'inclinaison du tube, le porte-oculaire est toujours horizontal à la même hauteur. C'est une construction, bon, c'est plus une pièce, on va dire, décorative maintenant. On observe plus facilement avec des télescopes plus modernes, c'est sûr, mais ça reste quand même un instrument très particulier. Il a d'ailleurs fait l'objet d'une exposition au musée de Cambrai il n'y a pas très longtemps, puisqu'il y avait eu une manifestation au mois de février joignant justement l'art pictural et l'astronomie. Et quand ils ont su qu'il y avait ça à leur porte, ils ont dit « il nous le faut tout de suite ».
Et derrière, je vois un tube.
Alors derrière, il y a un tube. C'est le tube du télescope de 300 mm qui m'a été donné par René Verso. René Verso, c'est l'un des vétérans de l'astronomie d'amateur en France, co-auteur de la revue des Constellations. Et c'est un télescope dont l'optique a été terminée par Jean Texereau et dont la monture a été modifiée sur les plans de Jean Texereau aussi. Et c'est une monture très particulière, c'est une monture équatoriale dite anglaise, dont l'axe est constitué par le pont arrière d'un camion 4x4. C'est un pont qui pèse environ 120 kg et une monture qui est d'une très très grande stabilité. Le principe étant de dire que pour 10 kg de miroir, on met on va dire une trentaine de kilos de tube, et il faut mettre à ce moment-là environ 300 kg pour le reste. Et le support doit faire environ 3 tonnes. Donc en fait, c'est une monture qui est prise entre deux piliers de béton, donc qui pèse les 3 tonnes. L'axe, avec tous les accessoires, fait à peu près les 300 kg pour un tube d'une trentaine de kilos. D'accord. Donc c'est impossible de le faire vibrer, y compris par vent fort.
Oui, et puis c'est quelque chose qu'on ne pourra pas... Enfin si, vous allez peut-être le mettre sur une monture qu'on pourra déplacer.
Ah non, celui-là, il va rester fixe sous l'un des abris. Il sera sur l'un des quatre abris et il sera complètement fixe. Il ne pourra pas bouger.
Derrière, il y a encore d'autres appareils.
Alors ici, à côté des appareils, vous avez un petit souvenir du planisphère céleste. On parle du planiciel de Pierre Bourges. En fait, Pierre Bourges n'a pas inventé grand-chose, puisque le premier planisphère céleste, il a été dessiné par un monsieur qui habitait en Picardie, un astronome amateur qui s'appelait Léon Fenet, à la demande de Camille Flammarion. Donc là, ce qu'on voit ici, c'est la première carte céleste tournante qui a inspiré toutes les autres éditions ultérieures.
Pareil, comme les planisphères normaux, c'est-à-dire on place le mois, le jour et l'heure pour avoir en fait la carte du ciel.
La carte du ciel visible. Donc là, c'est la première édition de 1890 à peu près.
Et puis en dessous, il y a une petite...
En dessous, il y a une petite chose amusante, c'est une sphère armillière qui date du début du XXe siècle, qui est en métal argenté, qui est à mi-chemin entre l'objet de décoration et l'objet d'initiation. Et c'est un objet qui permet de comprendre merveilleusement bien et facilement les différents mouvements du ciel sous les différentes latitudes.
Ensuite, on a un autre télescope ici.
Alors celui-ci, c'est un télescope un petit peu plus courant. C'est un télescope de 200 mm de diamètre et de 800 mm de focale, qui a une petite histoire parce qu'il vient des journées de l'occasion en astronomie. C'est une manifestation annuelle qui se déroule au sud de Lyon tous les ans, le dernier week-end du mois de mars. Et c'est un télescope dont j'ai fait baisser le prix pendant 5 ans. Et pour finir, quand le vendeur en a eu assez de la négociation, ben j'ai pu le récupérer pour presque rien. Moyennant quoi, il a une monture équatoriale, c'est une Q5 qui a été customisée, on va dire, de même que le tube du télescope. Et donc, il est apte au pointage automatisé, il est apte à la photographie, il est apte à la, même au visuel de bonne précision, puisqu'il a un porte-culeur électrique. Et c'est un des télescopes aussi qui pourra aller sur les terrasses ou un petit peu plus loin derrière, donc quand l'occasion s'en présentera et qu'on aura du monde à mettre dessus.
Vous parliez de quatre coupoles, on en a vu un qui sera sous une coupole, et pour les trois autres alors ?
Les trois autres, ils ne sont pas ici pour l'instant. Le 535 mm, c'est un télescope qui est sur monture en fer à cheval. C'est un miroir historique puisqu'il a été taillé par Georges-Louis Richer, qui est l'opticien qui a taillé les deux miroirs de l'Observatoire Newman-Wilson, le 1m50 et le 2m50. Le 2m50 ayant été le plus grand télescope du monde de 1917, je crois, jusqu'en 1948, ouverture de l'Observatoire du Mont-Palomar. Et c'est un miroir qui a été terminé par le même André Couder, donc c'est un miroir de très très bonne précision qui a été monté dans une mécanique Trasud. Et ce télescope-là, il va arriver, je pense, dans l'année, dans le premier abri qui va être construit. Donc le télescope de 400 mm Newton Cassegrain va arriver aussi en principe dans l'année. Le télescope René Verso, ce sera un peu plus tard parce que tout ça, ça coûte un peu d'argent. Et puis après, le quatrième, donc c'est le Baqui, Pierre Bourges, qui lui va arriver un peu plus tard aussi. Mais je pense qu'il arrivera à l'observatoire avant et il servira en itinérant en attendant. Il reste aussi un télescope qui va arriver au mois de novembre, qui est un... Parce qu'en fait, l'idée, c'est de réunir dans cet observatoire, on va dire, les télescopes marquants d'une certaine époque, c'est-à-dire de l'époque des astronomes constructeurs et du début de l'astronomie, on va dire, commerciale. Donc c'est pour ça que le C14 est assez emblématique. Il y aura aussi bien sûr un 200 mm Pierre Bourges pur cru, forcément. Donc il nous fallait aussi un Dobson pur cru. Donc le Dobson pur cru, c'est un 460 Obsession qui a une optique galaxie de très très bonne facture et qui va arriver ici au mois de novembre. C'est un télescope qui a une très très bonne résolution, un très bon contraste et qui va permettre de nous régaler sur les objets du ciel profond.
Je voyais aussi qu'on a des pièces de musée. Ça vous donne pas aussi envie, parce qu'il y a déjà beaucoup de projets, mais ça vous donne pas envie aussi de faire un musée ?
Faire un musée, non, parce qu'il faudrait des murs. Alors pour ce qui est du musée, on est en train de réfléchir avec monsieur le maire, que vous avez questionné tout à l'heure, parce qu'on a la possibilité de récupérer, dans le cadre des activités de l'Astroclub de France, le contenu du musée Pierre Bourges de Saint-Longis-les-Mortagnes. Où se trouve une bonne partie des montages très ingénieux que Pierre Bourges avait réalisé durant sa longue vie d'astronome amateur. Et l'idée, c'est dans un premier temps de les rapatrier, de faire des expositions temporaires ou de sortir quelques objets ici et de les faire tourner de façon à ce qu'au final, tout puisse être présenté, ce qui pourrait inciter les gens à revenir pour voir à peu près la totalité. Alors des expositions, on en fait. Il y en a une ici au mois de juin. Qui a marqué les 90 ans de la disparition de Camille Flammarion, où avait été exposé donc une bonne quarantaine d'ouvrages donc de Camille Flammarion, la plupart avec envoi d'auteur, des documents manuscrits, des lettres d'Antoni Adi à l'abbé Moreux, enfin plein de documents de Flammarion et de ses contemporains. Et on a fait ça pendant les 4 week-ends du mois de juin. On va récidiver des expositions, il y en aura d'autres. Mais laisser un fonds documentaire important ici, on ne le fera pas tant que l'ensemble du bâtiment n'est pas complètement sécurisé. Il est déjà beaucoup, il est déjà bien sécurisé sur le rez-de-chaussée. Il faudrait qu'il le soit autant sur l'étage, ce qui est le cas pour l'instant. Les vitrages sont aussi anti-effraction à l'étage qu'au rez-de-chaussée, mais il faut encore plus de sécurité pour pouvoir accueillir des documents uniques.
On va s'interrompre quelques instants, le temps de faire une pause musicale, et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission. À toi les étoiles. À tout de suite.
IFM, 98 FM.
C'est l'émission À toi les étoiles, comme tous les troisièmes mercredis de chaque mois, de 18h à 19h, la dernière de cette formule de l'été. Je vous rappelle que je suis aujourd'hui en région Nord-Pas-de-Calais, dans le département du Nord, dans le petit village de Priche, qui se trouve à 40 km à l'est de Cambrai et à 5 km au sud de Maroual. Je suis en compagnie de Philippe Morel, qui est membre de la Société Astronomique de France, mais également Jean-Claude Fauvez, qui est maire de Priche, et de Gérard Lemaître, qui est président du club d'astronomie cordésien. Philippe Morel, on passerait beaucoup de temps à vous écouter, à se promener sur ces lieux, mais on arrive au terme de cette émission À toi les étoiles. Alors, comme j'ai l'habitude de faire, je demande toujours aux invités le mot de la fin. Donc, on va commencer par monsieur le maire.
Le mot de la fin, c'est l'aboutissement et puis les souhaits, tous les projets et les souhaits de monsieur Morel aboutissent, hein, c'est-à-dire la construction de la tour, l'amphithéâtre également, et puis tout ce qui s'associe avec ceci. Hein, et puis pour continuer à attirer du public et de plus en plus nombreux, je pense que les gens répondent de plus en plus favorablement. Tant que la presse nous suit, comme on dit, c'est important aussi. Hein, relation importante entre le public et puis l'observateur, je pense. Voilà.
Merci à vous, monsieur le maire. Monsieur le maître, le mot de la fin.
C'est d'abord un lieu de vie où des gens qui ne se connaissent pas vont faire connaissance, autour par exemple d'un barbecue, autour d'un, pourquoi pas, d'une bière, du cidre ou d'une eau de vie de Mirabelle éventuellement. Donc c'est ça, c'est le côté lieu de vie dans un lieu quand même assez favorisé par la nature.
Enfin, l'eau de vie à consommer avec modération, bien sûr.
Bien sûr.
Et enfin, on termine avec Philippe Morel, le mot de la fin.
Bon, le mot de la fin, il est simple, c'est-à-dire que cet observatoire, il est voulu pour être une invitation à l'observation dans les conditions les plus conviviales, à la découverte du ciel dans les conditions les plus conviviales, et au partage de moments intenses et d'échanges entre les uns et les autres. Pour ne rien vous cacher, comme dans tout club d'astronomie, même s'il n'y a pas de structure club d'astronomie qui supporte l'observatoire, il nous arrive souvent de faire des petites fiestas ici et de terminer par des bonnes rincées d'étoiles. Donc je ne peux qu'inviter toutes les auditrices et tous les auditeurs à venir nous rejoindre ici. Pour ne rien vous cacher, il y a beaucoup de personnes d'Île-de-France et du nord de l'Île-de-France en particulier qui viennent observer ici, même si la structure est relativement récente. Mais il suffit de prendre contact avec l'observatoire, c'est pas compliqué. On a deux sites internet, un en particulier qui est sur AstroSurf, hein, c'est www.astrosurf.com/obscf/. Et là-dessus, vous trouverez toutes les informations utiles sur les prochaines manifestations et le moyen de nous contacter.
Écoutez, Philippe Morel, je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli ici dans le Nord, à Apriche. Et donc, comme vous l'avez dit, pour les auditeurs qui souhaitent venir vous rejoindre, eh bien, ils sont les bienvenus et ils retrouveront donc toutes ces coordonnées sur Internet.
Merci beaucoup, Franck, d'être venu jusqu'ici. Et puis, ben, vous êtes le bienvenu à chaque fois que vous le jugerez utile.
Merci beaucoup. Ainsi se termine cette émission À toi les étoiles. C'était la dernière de la formule de l'été. Dans quelques instants, vous allez retrouver Dobre Tchass avec Véronique Gastin et sa co-animatrice, l'émission en russe, vous savez. Ensuite, ce sera Patrick Molis à 20h pour Country et Souvenirs. Et puis à 22h, Astromancie. Et puis la nuit, à partir de minuit, ce sera des rediffusions. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous de passer une bonne fin de journée et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission d'À toi les étoiles et on va parler d'un événement qui a eu lieu cet été, c'est justement la sonde New Horizon qui est passée près de Pluton. On va parler donc de toutes ces informations qui ont été récoltées et ce sera de nouveau dans les studios puisque la formule de l'été sera terminée, prochaine formule de l'été l'été prochain. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et rendez-vous le mercredi 21 octobre de 18h à 19h. Soyez au rendez-vous. Au revoir à toutes et à tous et merci de votre fidélité.
Bonjour, ici Jacques Messier. Vous aimez IDFM Radio Anguin, votre radio de proximité. Pour une contribution modique, rejoignez-nous en devenant membre bienfaiteur de notre association et participez à la grande aventure de la radio. Renseignements à IDFM 26 bis rue de Mora, 95 880 Anguin-les-Bains ou au 06 03 03 11 40.
Sur IDFM, c'est déjà l'été. Déjà l'été.